pour parler de Vienne. Un accord est disponible si les États-Unis et le 3 sont réalistes, dit le ministre iranien des Affaires étrangères. 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans une attaque menée par les daéchistes contre la localité d'Al-Bara dans la province irakienne de Diyala. Et au sommet de la CEDEAO à Accra, les décisions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont été reportées au 3 juillet. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les pays qui font pression pour l'adoption d'une résolution anti-iranienne devraient également subir les répercussions d'une telle décision. Ceux qui font pression pour une résolution anti-iranienne à l'AIOA seront responsables de toutes les conséquences, a tweeté dimanche 5 juin le chef de la diplomatie iranienne. Ces remarques sont intervenues à la veille d'une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Conseil devrait adopter une résolution anti-iranienne rédigée par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis pour accuser la République islamique d'Iran de refuser de coopérer avec l'agence. Un accord est disponible si les États-Unis et les 3 pays européens sont réalistes, a noté le ministre iranien des Affaires étrangères. Lors d'un appel téléphonique vendredi dernier, M. Amir Abdollahian a déclaré à M. Borrell que l'Iran était déterminé à parvenir à un accord bon, solide et durable avec les 5 parties restantes du plan global d'action conjoint sur la relance de l'accord et la levée des sanctions contre Téhéran. Toute action politique des États-Unis et des 3 pays européens de l'AIOA connaîtra sans aucun doute une réponse proportionnée, efficace et immédiate de la part de la République islamique d'Iran. Pour sa part, le haut diplomate de l'Union européenne, Borrell, a critiqué des tentatives pour contrecarrer les pourparlers. Il a souligné l'importance de poursuivre les consultations pour se distancer de l'atmosphère négative actuelle au sein de l'AIOA et se concentrer sur la poursuite des négociations. Les deux hommes ont également discuté des derniers développements dans la levée des sanctions contre l'Iran et d'autres questions relatives aux relations entre Téhéran et l'Union européenne. Les deux diplomates ont exhorté l'AIOA à poursuivre une approche neutre et professionnelle. L'adoption attendue de la résolution intervient également à la suite d'un voyage du directeur général de l'AIOA, Raphaël Grossi, dans les territoires occupés. L'Iran a précédemment mis en garde l'AIOA contre le fait de permettre au régime israélien, qui mène une offre constante visant à incriminer le travail nucléaire de l'Iran, de ne pas permettre à Tel Aviv d'influencer le mandat et les prises de décision de l'agence. Le régime sioniste continue d'être le seul détenteur d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient avec un stock de centaines d'ogives atomiques. En raison de la couverture fournie par les États-Unis et les Européens, le régime a toujours refusé d'ouvrir ses sites nucléaires aux inspecteurs de l'AIOA, a également refusé d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Faisant référence au début de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIOA, lundi 6 juin, Mikhail Ulyanov, représentant de la Russie auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIOA, a estimé que le Conseil des gouverneurs de l'AIOA aurait des négociations difficiles. Mikhail Ulyanov, représentant de la Russie auprès de l'AIOA, a tweeté dimanche 5 juin. En plus d'un certain nombre d'aspects traditionnels du mandat de l'AIOA, les questions liées à l'Iran, à l'Ukraine et à l'AUKUS, pacte de sécurité tripartite américain, australien et britannique, seront abordées. L'ambassadeur de Russie et représentant permanent auprès des organisations internationales basées à Vienne a mis en garde samedi 4 juin que la résolution proposée par les États-Unis et l'UE3, qui sera présentée lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs contre l'Iran, n'aurait pas d'effet positif sur les relations entre l'Iran et l'AIOA. Qualifiant la résolution occidentale contre l'Iran d'insensée, Ulyanov a ajouté: si les pays occidentaux veulent faire passer un message sur la nécessité d'une interaction plus étroite entre l'Iran et l'AIOA, cela peut se faire oralement. À la suite de récentes consultations avec des responsables sionistes, l'UE3 ainsi que les États-Unis ont l'intention de présenter une résolution contre l'Iran à l'AIOA lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs qui débute ce lundi 6 juin à Vienne. La résolution, qui sera probablement discutée mercredi 8 juin, réitère certaines allégations sans fondement et appelle l'Iran à coopérer avec l'ONU. Ulyanov avait précédemment averti que si l'Agence internationale de l'énergie atomique approuvait une résolution occidentale sur l'Iran, les perspectives d'un résultat positif des pourparlers de Vienne et de la relance du plan d'action global conjoint seraient plus ambiguës. Si l'Union européenne veut parvenir à un accord, elle devrait faire plus d'efforts diplomatiques au lieu d'adopter une résolution, a noté le diplomate russe Mikhail Ulyanov. Le ministre syrien de la Santé, Hassan al-Rabash, a examiné ce dimanche 5 juin avec son homologue iranien, Bahram Ainallah, et la délégation qui l'accompagne à Damas, les moyens de développer le secteur de la santé, de fournir des services spécifiques aux patients et d'échanger les expertises. Les deux parties ont mis en exergue les services octroyés par le ministère de la Santé et les efforts déployés par les travailleurs dans ce secteur à la lumière des défis résultant de la guerre terroriste contre la Syrie, l'embargo économique et la propagation du coronavirus. 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans une attaque menée par les terroristes Daesh contre la localité d'Ali Bara, la province de Diyala. Le dimanche 5 juin à l'aube, la chaîne Telegram de Saberi News a rapporté que les terroristes Daesh avaient attaqué des habitants d'Ali Bara par des bombes artisanales et des armes de sniper. L'attaque était censée être une embuscade pour les forces de l'armée irakienne, mais elle a fait des morts et des blessés parmi les civils. Selon Saberi News, 5 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et 6 autres blessées. Il y a quelques jours, un groupe de terroristes Daesh s'en sont pris au sud de Kirkuk, tuant 4 personnes. Les services de sécurité irakiens tirent la sonnette d'alarme quant à la réapparition des terroristes Daesh. Les terroristes opèrent toujours dans le cadre de petites cellules dans des zones désertiques, montagneuses et infranchissables. Selon les services de sécurité irakiens, les daéchistes ont multiplié leurs activités depuis 2021. Ils estiment qu'il y a actuellement plus de 8000 terroristes en Irak, dont 4000 sont actifs et le reste sous forme de cellules dormantes. Quelques heures après l'attaque des supplétifs des États-Unis contre les civils, un convoi logistique appartenant à l'armée américaine a été touché par une explosion. Selon des sources irakiennes, une bombe a explosé au moment où un convoi logistique américain est passé par une route à l'ouest de la province de Salahitin. Deux convois ont été récemment touchés dans la province de Babylon et deux autres dans les villes de Nasiriyah et d'Al-Samava. La 6e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'est achevée samedi 4 juin à Accra sans aucune décision contre les juntes qui dirigent ces pays après des coups d'État. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a pas émis de communiqué à l'issue des travaux. Cependant, des médias locaux ont fait savoir que les décisions des chefs d'État ne seront connues sur les 3 pays en transition que le 3 juillet prochain, lors du sommet ordinaire de l'institution dans la capitale ghanéenne, Accra. À la veille de ce sommet, la CEDEAO avait annoncé dans un communiqué que les chefs d'État feront le point de la situation dans ces États membres et engageront des discussions à ce sujet, surtout concernant la durée de la transition qui fait débat dans les pays concernés. Il faut rappeler que la CEDEAO avait exigé le retour rapide des civils au pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. C'est la condition fixée par l'organisation sous-régionale avant toute levée des sanctions imposées à ces 3 États. Au Mali, voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Leur hache sonne. L'Algérie exposée aux infiltrations sionistes. Le site web algérien Algérie Patriotique révèle une nouvelle tentative d'Israël de recruter désormais des immigrés marocains en tant que double espion dans les pays d'accueil européens et africains, en particulier en Algérie. Le projet a été lancé il y a quelques jours quand l'américaine Victoria Nuland a animé en plein Maroc un sommet de lutte contre Daesh en Afrique, car dixit, Daesh est sur le point d'affecter de plus en plus le Maghreb et le Sahel. Se référant à une nouvelle révélation du journaliste du Figaro, le site web rapporte un nouveau scandale des services de renseignement marocains qui recrutent en catimini et en collusion avec le Mossad des immigrés marocains au service des agences secrètes israéliennes. D'après ces nouvelles informations, Rabat, qui contrôle la population marocaine immigrée, recrute dans la diaspora disséminée à l'étranger pour un relais des informateurs pour les services israéliens, révèle la source algérienne. Dès lors, n'importe quel Marocain est susceptible d'être à la fois un agent de Rabat et du Mossad. Et tous les pays qui ont une grande communauté marocaine risquent d'être infiltrés par des agents qui roulent à la fois pour le Marsen et pour le Mossad. C'est le cas de plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et la France. Selon Algérie Patriotique, il s'avère donc que tout le potentiel de Rabat est hors service des services de renseignement israéliens, ce qui constitue une démarche inédite. Le Maroc, par sa soumission à Israël et par le nombre de juifs de cour très influents, s'étant transformé en Ukraine de l'Afrique du Nord. Selon le site, cette nouvelle tentative d'Israël se définit dans le cadre d'autres efforts des sionistes pour phagocyter un État et une nation qui ont apporté leur soutien tous azimuts à la cause palestinienne et qui ont la Palestine dans le sang. C'est aussi une tentative visant à diviser et à atomiser non seulement la société marocaine, mais encore les Marocains et les Algériens, car, que soit dit en passant, plus de 3 ans de complot pour déclencher guerre et tension entre deux peuples frères n'ont mené à rien. Mais la solution, est-ce ce que nous propose Algérie Patriotique ? En croire les milieux intellectuels algériens, il faut trancher le plus tôt possible la crise, d'autant plus que le déploiement d'un million de Marocains en situation irrégulière en Algérie constitue non seulement un problème économique, mais aussi un danger sécuritaire non négligeable et permanent. S'il est vrai que la vigilance est de mise, la solution pourrait ne pas consister à être méfiant vis-à-vis des Marocains, mais les appuyer à ce qu'ils mettent à la porte les sionistes.